Alors, on s'était parlé il y a pas très longtemps, il y a un an maintenant, pour la sortie du volume 2. Donc, bah, la suite est arrivée très vite. À l'époque, tu disais que bon, vous étiez déjà bien avancé. Justement, à l'époque de la sortie du volume 2, vous étiez à quelle étape de préparation de ce nouvel chapitre ?
Je crois que quand on s'était entretenu, on avait en fait toute la composition. Et juste après, on allait entamer la phase d'enregistrement. Parce que l'album, on l'a fini en juillet. Je crois, si mes souvenirs sont bons, ou en juin ou juillet, bah, tout avait été quasiment fini de composer déjà en mars ou avril. Donc on était sur ce timing-là, en gros.
D'accord, d'accord. Là aussi, il y a un an, tu me disais, on prépare aussi un petit extended play de reprise qui devrait sortir avant l'été. Alors, je l'ai raté ou ça a été repoussé ?
Non, ça s'est sorti. Hein. C'est sorti en fait, on a sorti les remixes au fur et à mesure, et puis
EP.
C'était quasiment un album. Hein. C'était même pas un EP. Hein.
D'accord.
C'était quasiment un album de remix. Et c'est sorti. Le truc en lui-même, il est sorti, je crois, à la fin de l'été.
Ah d'accord, bah donc tu vois, je l'avais raté. Et donc c'est dispo sur vos sites, enfin sur le site internet ou?
Ouais, c'est dispo sur internet, et puis tu le trouves également sur Spotify et puis tous les trucs de streaming.
D'accord, ok. Bah, okay. Donc bah, ça sera une découverte dans les jours qui viennent. En général, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les sessions d'enregistrement de ce volume 3? Est-ce qu'il y a eu des différences par rapport aux deux volumes précédents ?
Non, on a quasiment fait tout de la même manière. Voilà. La seule chose qui a évolué, c'est que là, on a finalisé tout ça avec un autre producteur. Mmh. L'album précédent, on avait bossé avec Tom Baker, donc qui, comme j'en ai parlé, qui avait bossé avec Manson, Nine, Ministry, KMFDM, Rob Zombie et tout ça. Et là, on a choisi de bosser avec un mec qui est beaucoup plus rock, qui est Brian Lucet, donc un gars qui est basé à Los Angeles et qui a bossé avec Ghost, avec Marilyn Manson aussi, Depeche Mode, Royal Blood, et des choses, on va dire, un petit peu plus rock.
D'accord. Et donc, vous n'avez pas modifié votre façon de travailler avec l'expérience du premier acte ou l'expérience du deuxième acte? Il n'y a pas eu des choses où vous avez dit qu'il faudrait qu'on travaille différemment tel ou tel aspect ça...
Non, ce qui s'est passé, c'est que je pense qu'on s'est amélioré sur certaines choses et qui fait qu'on a abordé certains aspects de l'enregistrement de manière différente. On a incorporé des guitares acoustiques. Voilà. Je pense que c'est plutôt dans notre manière de en fait on s'est amélioré dans le mix, dans l'enregistrement, plutôt que on a changé de manière drastique des façons de faire.
D'accord. Quand au moment de définir le moment d'enregistrer, vous vous laissez une certaine liberté de dire bah il y a telle chose qu'on finalise pas et qu'on verra sur le moment, ou vraiment tout est positionné au cordeau et après vous touchez à rien parce qu'il faut travailler bien efficacement.
Non, c'est vraiment assez souple. Et par ailleurs, les morceaux évoluent aussi pendant les phases de mixage, pendant les phases d'enregistrement et tout ça. Tu vois, on laisse pas tout. C'est comme tu dis, c'est pas tout n'est pas millimétré comme dans le cinéma ou dans les films. C'est vraiment beaucoup plus souple dans l'approche.
D'accord. En termes de timing, vous êtes allé de plus en plus vite ou par acte 1, 2 ou 3, de plus en plus lent, enfin comment ça s'est positionné un peu ?
Non, pas tant, parce que déjà le timing était vachement serré, tu vois, ça fait quasiment 3 albums en 2 ans et demi, donc on était déjà quasiment au taquet du taquet en termes de vitesse. Non, je pense qu'on a pris à peu près le même temps pour chaque opus. Un an de compo, on a mis un an au global entre la composition, l'enregistrement et la finition totale, quoi.
Est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous êtes posé la question de dire on prend le temps mais on enregistre les trois d'un coup, et puis après bon, on décale un peu leur sortie pour pouvoir faire des concerts, de la promo, etc. Mais utiliser une seule session unique pour faire les trois?
Non, parce que tous les morceaux n'étaient pas composés, et puis tu sais, ça représente quand même 30 morceaux, quoi.
Bien sûr, ouais, ça fait un sacré boulot.
Ça fait vraiment, vraiment un sacré boulot, et ça aurait été vraiment, vraiment trop de... je sais même pas si on aurait pu finir à bout, au bout d'un moment, t'es un peu écœuré, c'est comme si t'as un plat qui est trop, trop grand, et tu te dis, faut que tu bouffes tout ça. Non, je pense qu'on aurait été presque quasi écœuré, et que du coup, peut-être qu'on aurait même pas réussi à finir le merdier, quoi.
D'accord, d'accord. Donc tu disais, comme tu le précisais, donc pour les étapes finales, vous avez utilisé Brian Lussie. Pourquoi lui par rapport à Baker, et quelle différence tu notes entre les deux?
Alors c'est très difficile de juger les différences entre les deux puisque le support n'est pas le même, tu vois, donc tu sais pas si c'est vraiment eux qui ont apporté une patte très très différente, si toi au préalable le matériel que tu leur as fourni était vraiment différent. Mmh. Et moi je sais que sur le mix par exemple, entre le deuxième opus et le troisième, c'est quand même assez différent pour les raisons que je t'avais dit juste avant. En revanche, le choix de Lucé, c'était parce que c'était quelqu'un qui était plus ancré dans le rock moderne, il bossait avec beaucoup plus de groupes récents, et l'idée pour moi c'était d'essayer de voir comment il pouvait apporter une touche plus moderne à notre son, là où Tom Baker lui a beaucoup plus bossé avec des groupes des grands groupes des années 90 2000, tu vois, tout ce
que tu citais, ouais, bien sûr, ouais.
Tout ça. Et par contre Brian Lucé lui a une patte beaucoup plus présente dans l'actualité, quoi, de nos jours.
D'accord. Là aussi, sans rentrer fortement dans le détail des coulisses qui ne nous regardent pas, on définit, bah tiens, on voudrait bosser avec X ou Y, et on prend son ordinateur, on envoie un mail, et puis on voit s'il y a un contact, et après on voit si on se met d'accord sur les conditions. C'est aussi simple que ça, ou c'est quand même plus compliqué?
Non, c'est aussi simple que ça. Ben, après, si le mec il te répond, déjà, t'as gagné quelque chose, entre guillemets,
ouais.
Et après... espérer qu'il apprécie la musique et que du coup il te dise ouais super, moi je kiffe votre truc, allons-y quoi.
Ok,
ouais. Et que tu te mets d'accord aussi financièrement
bien
sur
sûr,
le coup, parce que voilà, c'est quand même il y a quand même une contrepartie financière
bien sûr.
Au global, sachant qu'avec un groupe indépendant comme le nôtre, il gagnera trois fois moins que bosser avec les autres groupes avec lesquels il bosse. Qui sont des groupes de
major, quoi. Ouais, faut espérer justement qu'il ait l'intelligence de faire des tarifs variés si c'est un groupe indépendant ou si c'est un où il y a une major derrière. Ouais.
Oui, voilà. Mais après, bon, tu sais, ils le font à peu près tous. Hein. Ils ont cette intelligence commerciale.
D'accord. Là aussi, on décide. Bon, ok, tu te mets d'accord avec lui. Vous êtes d'accord sur le contrat. Tu lui envoies d'abord un premier titre et puis après il juge ou t'envoies le tout. Et quel
sur les mastering, on envoie tout.
D'accord.
Après, des fois, ça arrive que tu puisses faire des tests, mais bon, quand t'es sur des mecs comme ça, les gars, ils sont tellement, c'est tellement pro, c'est tellement le haut du panier que tu fais même pas de tests. Hein.
Et justement,
tout l'album,
tu lui envoies tout et puis t'attends le résultat et il y a sa touche qui est là, ou t'as tout un descriptif où tu discutes avec lui longtemps sur ce que tu veux?
Non, moi, je suis plutôt du genre, quand je choisis quelqu'un, c'est parce que j'aime son approche, j'aime sa touche, et du coup je lui donne quasi pas de
contraintes, enfin de...
Ouais. Le mec, vas-y fais, tu sais très bien, tu sais peut-être mieux que moi d'ailleurs, ce qu'il faut faire, quoi.
Et donc à la fois quand t'as reçu les retours de Baker et pour l'album précédent et cette fois-ci pour Lucé, t'as été surpris d'une façon ou d'une autre du son du retour?
Oui, j'étais surpris du fait que ça sonne nickel tout de suite. Déjà, tu vois, tu te dis merde, putain, mais les mecs ils sont vraiment 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 balèzes. Et ouais, c'était surtout dans ce sens-là que j'étais vraiment surpris parce que ça sonnait direct, quoi.
D'accord. Et là aussi, entre le moment où tu es d'accord avec le mec et le moment où il te livre le produit final, c'est on parle quoi, en jour, en semaine, en mois?
Ça dépend. Avec Tom Baker, c'était compliqué parce qu'il avait un calendrier sur la période où on lui a envoyé tout ça, qui était chargé. Bon, je crois que ça s'est compté en semaine. Et puis, Brian Lucé, ça s'est compté en jour, quoi.
D'accord.
Parce qu'il avait plus de temps à ce moment-là, donc ça allait super vite.
Et il a pas eu besoin des travaux de vos travaux précédents?
Non.
Tu lui envoies pas, par exemple, les un ou deux par pour exemple?
Non, du tout. Alors peut-être que lui, il a fait son audit, hein, tu vois, qu'il allait écouter, voir un petit peu comment c'était. Mais en tout cas, nous, de notre côté, on lui a pas. Je lui ai pas fait les films directives. Le mec, il a fait tout ça tout seul, quoi.
D'accord. Peut-être pour les auditeurs qui seraient un peu moins. Comment dirais-je, qui connaîtrait un peu moins l'univers du groupe, et surtout donc des deux actes précédents. Est-ce que sans tu dévoiles ce que tu veux, sans vouloir spoiler, comme on dit maintenant, comment comprendre le titre de cet acte 3?
Oh, je dirais que, tu sais, comme c'est une trilogie, l'idée c'était de pouvoir suivre l'histoire et le cheminement du personnage principal, Mr. Strangler.
Mmh.
Et dans cette dernière phase de la trilogie, eh bien, il est en prison, il a été arrêté. Et quelque part, c'est un album qui traite de l'emprisonnement, de la manière dont ce personnage fait face à sa mort imminente. Et l'idée, c'était d'illustrer ça d'un point de vue sonore, c'est-à-dire ces différents sentiments qu'il peut avoir face à son emprisonnement et à sa mort inéluctable.
D'accord. Non, mais tu vois, quand tu vois le titre, on pourrait se dire c'est du point de vue du personnage. Il a besoin lui-même de croire en tout cas qu'il peut sauver ou qu'il y a une espèce de rédemption et que donc l'idée de dire qu'on peut être entre guillemets un personnage très négatif et il y a quand même vis-à-vis de Dieu on peut apparaître comme il y a un reste d'espoir quoi, il y a un reste positif.
Oui, alors ce que je voulais dire aussi par rapport à ce titre-là, c'était que même si c'est le pire des monstres, eh bien, d'un point de vue religieux, si Dieu est le créateur de toutes choses, il est aussi le créateur de ce monstre.
Mmh, mmh.
Et que tout ceci est de la volonté de Dieu. Puisque quand on est un religieux, il n'y a rien qui ne soit en dehors de la volonté de Dieu. Donc c'était vraiment dans ce sens-là que je voulais le montrer. Souvent, tu sais, quand tu as des procès de grands criminels, considérés comme des monstres, et bien souvent la plaidoirie de l'avocat consiste à dire que c'est un homme comme les autres, ce n'est pas qu'un monstre, et on essaie de les humaniser, tu vois, le plus possible. Donc c'était dans son sens que je voulais apporter la chose, et souvent parce que les religieux sont parfois les premiers à vouloir exclure de l'humanité certaines personnes, les non-croyants par exemple.
Mmh.
Donc, utiliser leurs arguments et les retourner dans ce sens-là me paraissait intéressant.
C'est surtout quand tu lis donc le dernier titre et un peu son dernier message, qu'il exprime, on voit que c'est quand même particulier, ça reste sombre, quoi.
Oui, absolument. Et quelque part, même si lui s'est résigné à mourir, tu vois, il y a ce côté où il accepte que c'est foutu pour lui qu'il va crever. Il y a quand même ce côté revanchard où il incite les autres à suivre,
c'est ça,
à
ouais.
Continuer son œuvre. Et à aller détruire le monde. Il y a ce côté, j'accepte ce qui m'arrive, mais aussi merde, je vais avoir, mais j'espère bien que vous allez continuer à souffrir après ma mort.
D'accord. Tout au long de donc de l'écriture des paroles et donc de création de cet univers sur les trois actes, est-ce qu'il y a eu, je sais pas, des lectures, des films, des éléments qui ont nourri un peu ta réflexion ou t'as lu des choses sur le sujet
alors,
ou...
Après, moi, j'avais beaucoup bossé à l'époque sur le Science surveiller et punir de Michel Foucault, qui traite de l'institution pénitentiaire et de l'institution psychiatrique. Et du coup, je suis quand même pas mal influencé de ça. Parce que c'est un sujet que je trouve fort intéressant. La prison et la manière dont on bascule des gens de la société en les mettant en psychiatrie ou en les mettant dans une prison.
D'accord. Là aussi, si je reprenais là, notre interview d'il y a un an, tu m'avais dit un truc du genre si jamais tout devait se finir avec l'acte 3, il ne doit pas y avoir sentiment d'inachevé, que ça se tienne par. Enfin, que ces trois actes se tiennent comme un tout. Est-ce que, a posteriori, tu as le sentiment d'avoir rempli ton objectif?
Oui, complètement. Franchement, je suis vraiment content de la trilogie, de la manière dont on a amené ce personnage jusqu'au bout de cette histoire. Et donc, il y a des remixes qui vont sortir là tout de suite après la sortie de l'album. Et on a eu le privilège et la chance de pouvoir bosser avec des super bons groupes sur cette série de remixes, et qui pour moi est une des plus belle façon de clôturer l'histoire Strangler. Donc en remixeur, on a Candy Christ.
D'accord.
On a Stabbing Westward, on a Angie, on a Chris Vrena de Nanny Schnells, on a voilà, plein de gros groupes comme ça, qui des groupes dont moi j'étais fan quand j'étais jeune. Voilà, et c'est une forme de consécration que d'arriver à bosser avec tous ces groupes-là. Quoi.
D'accord. Est-ce que tu as un souvenir particulier de quand vous avez mis la touche finale sur cet album? Est-ce que tu as senti, consciemment ou inconsciemment, une espèce de contre-coup moral ou artistique?
Non, j'avais conscience que c'était la fin, que que ça s'achevait avec avec lui, mais comme on était déjà dans comment dire, j'avais déjà fait mon deuil du personnage en quelque sorte, donc non, j'ai pas eu ce genre de sentiment, et j'ai pas ressenti ce moment, tu sais, où tu sais que c'est fini. C'était vraiment un truc un peu plus dilué que ça. J'ai pas eu cette cassure et ce moment qui est fini, l'avant, l'après.
D'accord. Et donc là aussi, dans l'interview d'il y a un an, tu disais après cet acte 3, je passerai à autre chose. Alors, est-ce que l'autre chose est déjà programmée? Tu as ce que tu as déjà dans la tête? Et est-ce que cette autre chose serait toujours sous le nom Porn, ou ou Porn s'achève avec la trilogie? Enfin, t'es très lié à cette trilogie-là.
Non, Porn continue. Porn continue, et il y aura un après. Donc, ce sera soit une trilogie, soit un double album, qui sortira en deux albums séparés. Le premier volet de cette nouvelle histoire sortira en début 2021.
Donc Porn est lié à faire des albums concept?
Je pense, ouais. Et pas que des albums, c'est-à-dire des doubles, triple albums, parce que pour moi, la trilogie, c'est un triple album, quoi.
Ok. Sont toujours des thèmes relativement sérieux et sévères, ou tu te laisses une petite...
Le prochain album, c'est un truc qui parlera des marginalités. Donc j'ai pas encore tout fini, donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué d'en parler.
D'accord,
là.
Ouais.
Je suis encore en train de bosser sur le concept en lui-même, je l'ai pas totalement arrêté. Mais grosso modo, ça va être un truc sur les marginalités.
Parce qu'on a du mal à imaginer Porn, tu vois, faire un truc sur le jardinage, le ciel bleu et les feuilles roses, quoi.
Ouais, je comprends tout à fait, mais tu sais, peut-être qu'on pourra faire un truc sur le réchauffement climatique, sauver la planète, ne pas filer des trucs et des trucs comme ça. Bon, j'exagère.
D'accord.
Non, c'est pas trop notre truc. Donc.
Est-ce que là aussi, in fine, est-ce que tu as eu le sentiment qu'il y a un des trois actes qui a été particulièrement plus difficile à accoucher que les autres?
Ouais, la partie 2 était la plus compliquée à faire, je pense. Je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'on était entre deux, tu vois, que j'avais encore, je savais pas encore où est-ce qu'on allait véritablement. Quand on a commencé à enregistrer l'acte 2, l'acte 3 est sorti il y a pas très très longtemps, on n'avait pas toutes les retombées, on était encore dans le flou. Donc je pense que pour plein de raisons, c'était l'acte 2. Mais au global, finalement, tout s'est passé assez simplement, et comme tout est allé vite, en réalité, ça démontrait que les choses se sont pas mal passées, quoi.
D'accord. Si on regarde un peu l'aspect visuel maintenant, donc pour la pochette, vous avez, je crois, à nouveau fait appel à David SC.
Ouais, c'est ça, on a bossé avec lui depuis le début. Quoi.
Depuis le début. C'était une volonté d'avoir une continuité visuelle entre les trois?
Ouais, carrément. Et puis le fait que tu es avec la même personne, tu finis par mieux te connaître, tu arrives à être plus facilement, efficace. Voilà. Et moi, j'aime bien créer des équipes et continuer à bosser avec eux et faire grandir ensemble les histoires, quoi. Donc, c'était cool de pouvoir continuer à bosser avec David de tout du long, quoi.
D'après ce que j'ai vu, il habite au Québec?
Ouais, il est à Montréal.
Il est à Montréal. La distance géographique pose pas de soucis?
Non, bah, tu sais, on fait tout à distance, quoi. Après, des fois, il faut juste prendre compte du décalage horaire, parce qu'il y a 10h, 36, 7h, le décalage avec Montréal. Donc, une fois que tu prends conscience du décalage horaire, ça va être bien.
Le visuel qu'on voit, là, enfin, cet instrument de mort, la chaise, là, ça a été sa première proposition?
Je crois, si mes souvenirs sont bons, oui. Oui, je voulais qu'on puisse vraiment représenter sa mort. Donc, on s'était posé la question de la manière dont il allait mourir, tu vois, soit un truc de pendu, soit une chaise électrique, soit autre chose, et on a opté pour la chaise électrique parce que c'est un truc qui est facilement visualisable.
Et je me suis toujours demandé, hein, c'est peut-être question idiote, mais chaise électrique, mais le personnage n'est pas dessus.
Non. Par contre, dans le clip, le dernier clip qu'on va publier cette fin de semaine, eh bien, il sera dessus. Voilà.
D'accord.
Et en plus, on a récupéré la même chaise électrique, on a fait construire et tout ça. Donc, ouais, sur la pochette. Après, j'aimais bien l'idée qu'il n'apparaisse pas forcément sur toutes les pochettes, pour qu'on puisse imaginer ce qui se passe.
D'accord. Donc toujours sur là tu me fais directement la transition. Donc en complément sur les visuels, donc il y a l'ensemble des clips. Donc vous avez sorti pas mal de choses. Some Happy Moments, Low, Winter Hope, Part 2, etc. Donc c'est des clips très soignés où il y a mélange où on voit le groupe. Alors, il y a un jeu sur les néons, sur la lumière qui est assez sympa, et puis il y a une partie qui est un peu plus scénarisée. Comment ça s'est passé en général sur la préparation et le tournage lui-même des clips?
Sur l'équipe dont tu fais référence, on a bossé avec Matteo de VD Pictures, avec qui on a déjà fait quand même pas mal de clips. Puisqu'on a dû faire 6 ou 7 clips avec lui, 6 ou 7 clips, notamment Louis d'Europe. Là, on a tourné dans une véritable prison en Suisse, une prison qui est désaffectée, qui est maintenant un hôtel, mais qui est tout le dernier étage est resté tel quel, c'est-à-dire qu'il y a les cellules comme elles étaient à l'époque. Avec lui, ça se passe super bien tout le temps parce que on se connaît bien maintenant, on a fait 7 clips ensemble. Ça se passe toujours super bien. Ils font vraiment beaucoup d'efforts pour trouver des bons lieux avec tout ça. Et le clip de Some Happy Moment, par contre, c'était le deuxième clip qu'on faisait avec Jérémy, qui est un Français. Donc on a fait 2 clips avec lui, c'est un Parisien. Et là, c'était un petit peu plus compliqué, parce que c'était nos débuts, il fallait qu'on se mette d'accord sur l'histoire, etc. En soi, ça s'est super bien passé. Et on a eu quelques problèmes avec le clip de Some Happy Moments, parce qu'il y a plein de weddings qui ne voulaient pas diffuser le clip, parce que ils considéraient que le clip allait porter atteinte à l'image de leur wedding, par les trucs un peu hallucinants, quoi.
Porter image à l'atteinte, porter atteinte à l'image, bah dis donc.
Oui, non mais ouais, mais c'était, enfin voilà, on nous l'a dit tel quel, donc bon, tu vois, quand on s'appelle porn, hein, donc les critiques de ce type-là et tout ça,
oui, bon.
Tel quel, on est familier.
D'accord. Les clips, c'est toujours sympa a posteriori, mais le tournage lui-même, ça peut être un peu une galère. En particulier, par exemple, le fait de porter un maquillage sur le visage toute la journée. Ça s'est bien passé?
Oui, non, mais ça se passe bien. Après, c'est toujours un petit peu chiant parce qu'il faut toujours ajuster le merdier et tout ça. Mais non, c'était plutôt cool, quoi.
D'accord. Puis c'est là aussi question idiote, mais je me suis toujours demandé où l'œil, où je suppose que c'est une lentille, tu vois à travers, oui, ou tu vois que dalle?
Non, en fait, je vois un peu comme derrière un léger voile.
D'accord, ok.
C'est flou.
D'accord.
C'est pas flou, c'est un peu, le terme en français, je trouve pas trop, mais c'est blurry, tu vois ce que je
veux dire. Ouais, c'est ça, ouais. Les lignes sont pas claires, ouais, c'est d'accord, c'est ok.
Voilà. Mmh. Voilà, c'est comme si je voyais à travers un petit film très 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 fin.
D'accord.
Mais bon, ça va parce que c'est juste un œil.
Oui, c'est ça, bien, si, oui. Ouais.
Ce serait sur les deux, ce serait compliqué.
En termes de timing, c'est quoi? Un jour, deux jours, plus par clip?
Ça dépend, il y a les clips qu'on a fait en une journée, il y a les clips qu'on a fait en deux jours, mais grosso modo, souvent une journée.
L'aspect visuel avec le travail entre l'obscurité et les néons, en particulier les néons rouges, vous en devinez vu le sujet, ça c'est l'idée qui est venue très vite ou
Ça je sais pas, c'était une idée de Matteo et même de Jérémy là sur le clip de Ice Emerson. Je sais pas, ça je dois te dire que les choix de lumière et tout ça, après c'est eux qui m'ont proposé, moi j'ai trouvé que c'était cool, j'ai dit oui. Je veux dire, mais après la genèse de comment ils ont galéré pour trouver ça, j'en ai aucune idée en fait.
Ok. Et l'aspect entre guillemets théâtral, en particulier ton personnage, c'est un truc qui devient naturellement, tu arrives à rentrer assez vite dedans ou il y a toute une, parce que tu peux, il y a un aspect écrire la musique, écrire les paroles, etc. Mais il y a un autre aspect quand même d'incarner le personnage. C'est un truc qui devient naturellement.
Ouais, ça c'est bien, c'est naturellement, et finalement tu le fais un petit peu quand tu te maquilles, tu rentres petit à petit dans le personnage. Au moment où tu te maquilles, finalement, quand tu t'accoutres en sangleur, tu deviens, au fur et à mesure que tu prépares ton déguisement, entre guillemets, sangleur, quoi.
D'accord. Ce que vous avez déjà annoncé, qui s'annonce une belle suite à venir, c'est donc le No Monsters in God's Eye Tour 2020. Donc vous avez déjà annoncé des dates, Milan, Paris, Lyon, Nantes. Ouais. ça va être vous avez dans l'idée de faire quand même très concentré sur le troisième acte ou de travailler sur les trois ou
on va faire des morceaux des trois en fait. Il y aura des morceaux de tous les albums.
Avec une volonté de maintenir un fil rouge de l'histoire ou ça va quand même être pas mal mélangé
Non, ça va être mélangé.
D'accord, ok. Donc c'est sûr.
Ça va être mélangé. On va mélanger les différents morceaux de la trilogie et même des morceaux d'avant trilogie.
D'accord. Donc le but c'est vraiment de fixer une setlist par rapport à donner un rythme au concert, avoir des moments forts, avoir des moments plus calmes.
Ouais, voilà.
D'accord. Cette tournée, elle va. Vous avez l'objectif qu'elle se poursuive jusqu'à à peu près quand c'est. Vous visez jusqu'à un peu 2021 ou
Non, on va refaire quelques dates, je pense, à l'automne. Là, on va se concentrer sur ces dates-là. Après, on va rentrer en studio pour enregistrer la suite. Et après, on risque de refaire quelques dates à l'automne. Et ensuite, on va bosser sur la sortie du nouvel album.
D'accord. Dans les pays limitrophes de la France, quel pays ou quel public te semble les plus sensibles positivement à la musique de porn?
Ah bah de toute façon ça c'est indéniable, hein. C'est surtout Allemagne et Royaume-Uni, c'est là-bas où on a le plus de ventes d'albums et de streams. Hein.
D'accord. Supérieur à la France ou?
Ah oui, c'est oui. Incomparable.
Ah oui d'accord, donc c'est comme quoi
c'est quasiment du simple au double. Hein.
Ah oui, on n'est jamais prophète dans son et pays, c'est un bon exemple, mais.
Non, et aux États-Unis, c'est du 5 c'est du simple au cinquuple. Hein.
Ah oui, d'accord, ok. Bah, ça remet les choses, c'est bien de le dire.
Ouais, la France, c'est pas du tout notre premier marché. Après, on est ici principalement, donc c'est plus facile pour aller faire quelques concerts et tout ça. Mais bon, voilà, on commence à avoir beaucoup de d'ouverture et de demandes sur l'étranger, donc on va voir comment ça se passe.
D'accord, super, tout ça c'est des bonnes nouvelles, hein, tant mieux.
Ouais,
et une dernière question, donc tu me mettais en avant, vous êtes très très disponible sur les sites de streaming. Alors je sais que c'est bon, ça devient une obligation, ne serait-ce que pour se faire connaître ou toucher pas mal un public assez large, mais du point de vue artiste, alors il y a l'aspect financier mais pas que, toi tu juges ça plutôt comme une malédiction ou une bénédiction?
Non, c'est très très bien. Il y a que les gens qui vendent pas d'albums qui vont te dire que le streaming c'est pourri. Le streaming ça a sauvé l'industrie. Hein. Franchement, c'est nous ça nous a boosté. On arrive à toucher des gens du monde entier avec ça. Alors après tu peux toujours te plaindre sur le fait que tu touches pas assez de pourcentage sur chaque stream. Mais ça c'est comme tout. Hein. Faut savoir que sur une vente d'album, quand tu mets en licence ou quand tu es en contrat d'artiste, tu touches que dalle aussi, quoi. Donc non, ça a été une très très bonne chose, ça a redynamisé l'industrie. Il y a plein de groupes indépendants qui ont pu tirer leur épingle du jeu grâce au stream, alors qu'avant tout était trusté par les bacs des disques étaient trustés par les maisons de disques et les majors. Donc du coup non, moi je vois ça comme une bénédiction et ça a vraiment boosté ça a reboosté la scène indépendante. Hein.
D'accord, non, mais c'est intéressant parce que souvent on a des artistes, ils voient ça un peu comme un mal nécessaire. Donc c'est toujours intéressant d'avoir les différents points de vue, quoi.
Non, mais c'est tous ceux qui disent ça, c'est tous ceux qui en fait ne vendaient pas de disques et n'en vendent toujours pas. Et enfin, tous les gros vendeurs streament énormément, tu vois.
D'accord.
L'industrie du disque, l'industrie de la musique, elle est en croissance chaque année. Donc si les albums se vendent moins bien, c'est bien que l'argent est récupéré ailleurs. Donc il n'y a qu'un seul moyen, c'est le stream. Hein.
D'accord, ok.
Mais... Donc ça prouve bien que ça génère un fric monstrueux.
Ok, non, mais c'est l'avantage surtout, enfin c'est peut-être aussi un élément, c'est que pour l'instant les sites de stream sont encore très ouverts et donc tout le monde peut y aller, quoi.
Ouais, complètement.
Quand ça commencera à être cadenassé par quelques, là aussi peut-être des majors, là ça commencera peut-être à devenir un peu plus compliqué.
Ouais, mais je pense qu'il y a encore de la marge et que justement c'est cool pour nous et qu'on peut tirer notre épingle du jeu, on peint assez simplement.
Et vous, votre plus gros vecteur, c'est quoi? Spotify, sans faire de pub?
Ouais, c'est Spotify, mais c'est le plus gros vecteur de tout le monde. Hein. Spotify, ils sont devant, mais tous les autres. Hein. C'est un truc de fou, parce qu'ils ont réussi à faire un truc de malade. Hein.
Non, mais je pensais qu'Apple était bien positionné par rapport à eux, mais...
Je crois que c'est du simple au double, hein, le rapport de nombre d'utilisateurs.
C'est possible.
Spotify, c'est 230 millions et Apple, c'est 115, hein, je crois.
Ah oui, donc effectivement, il n'y a pas photo.
Ils sont super, super loin derrière. Ils sont grave à la traîne, quoi.
D'accord. Bah, après, chacun fait.
Ouais, je vais devoir te laisser parce que t'as Roger qui me fait signe parce qu'on a pas mal de retard. Je crois qu'on avait 30 minutes, hein, c'est ça.
C'est tout bon. Je te remercie en tout cas. Et puis.
Merci. merci à toi, merci vraiment beaucoup de l'intérêt, quoi.
Ah, au plaisir, et puis donc à très bientôt.
Je pense dans un an pour la suite, hein.
C'est ça, c'est l'idée. À plus, ciao.
Ça marche, allez, ciao.